Bonsoir ou bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Podculte. Durant cet épisode, nous allons avoir beaucoup d'invités qui viennent d'horizons tous variés, autant de l'Alliance que de l'Horde, nous avons du monde. L'attente aura payé. Nous allons présenter nos invités avant de présenter nos sujets. Nous avons Kérobéron de la Garde Impériale qui en est le dirigeant. Bonjour Kérobéron.
Bonsoir.
Nous avons Jack, le GM de Brume, si je ne m'abuse.
Salut, salut!
Nous avons Lucida, dirigeant d'Arcanum Sanctus.
Bonjour.
Après, passons à un niveau en dessous, parce que je présente l'Alliance, hein, en premier, parce que l'Alliance arrive à voir la Horde, pour l'ordre alphabétique, bien sûr. Nous avons Kalyan, notre rubrica.
Enfin, oui, un niveau en dessous, je te remercie, donc bonsoir, bonsoir.
Oh, c'est une petite blague, une petite boutade. Nous avons également Zulceus, qui est de l'Alliance, qui est dans Arcanum Sanctus, mais qui vient également de former la Chiamquashi, voilà, donc bonjour
les enfants.
Nous avons Nazgal, de la Nazgal SARL.
Bonsoir tout le monde.
Nous avons Monsieur Skadué.
Bonsoir.
Nous avons Galliatus, dirigeant de la Garde Pourpre.
Salut tout le monde.
Nous avons Eleven, qui est la main de mémoire.
Salut.
Et bien sûr, nous avons Logic, qui est notre nouveau Magneto Girl.
Girl, je t'emmerde. Salut.
Et bien sûr, moi-même, Erzan, intendant de la maison Saloué-Bellory. Maintenant, nous allons vous présenter les sujets, brièvement, bien sûr. Donc, nous allons parler de la 5.4. Elle a été sortie il y a quelques temps déjà, mais savoir qu'est-ce qu'elle a apporté au jeu, qu'est-ce qu'elle a apporté aux joueurs, et qu'est-ce qu'elle a apporté au RP. Nous allons également avoir un petit débat sur la différence entre le RP actif et le RP passif, les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, et l'avis de nos invités là-dessus. Et nous finirons bien sûr, dans nos sujets, avec une question qui se pose, c'est l'impact de la magie dans la cuisine. Le monde culinaire est-il bouleversé par cette magie millénaire? Et bien sûr, nous aurons la rubrique de Kalyan, qui nous présentera encore une nouveauté. Ensuite, nous aurons la rubrique ouverte avec la présentation des guildes, la présentation des événements, en cours ou à prévoir. Après cette longue présentation, commençons par notre sujet principal. La 5.4. La 5.4 qui a vu arriver le siège sur Grimmar avec la fonction du raid dynamique étant une facilité entre guillemets car il se situe entre LFR et le raid normal. Donc qui a vu arriver également l'île du temps figé avec son PVP particulier, dirons-nous. La question qui se pose, c'est quel est l'impact que ça a eu sur le PvE et également les possibilités RP qui découlent de ce raid dynamique.
Pour les réflexifs, moi je trouve que c'est une très bonne chose finalement. Parce que ça permet aux guildes de sortir un peu des conventions roster 10, roster 25. Et du coup, bah, ça permet aux joueurs plus occasionnels de venir en raid quand ils veulent. Puisque même on peut rentrer en cours de raid, on peut sortir en cours de raid. Comme c'est intitulé raid flexible. Donc ça permet une plus grande flexibilité et donc à plus de monde d'accéder au contenu PVE et donc d'avancer sur l'histoire tout simplement.
L'avantage du raid flexible surtout c'est qu'en fait comme il oscille entre un niveau de normal et un niveau de LFR, ça permet aux guildes qui sont pas du tout habitués au PVE de pouvoir y participer. Parce que le problème actuel du LFR c'est qu'on se retrouve avec un groupe qui est forcément de 25, qui est rempli généralement d'inconnus, qui sont plus ou moins sympas on va dire. Et l'avantage surtout, c'est que du coup, on peut aisément se monter un roster 10 qui peut avancer un minimum sans pour autant devoir aller chercher dans une difficulté trop avancée pour ceux qui ont vraiment du mal.
Mais je pense pas que ce soit surtout fait pour les guildes qui ont de la difficulté à accéder au raid 10. Enfin, moi, je vois plutôt ça comme vraiment ouais, un outil pour faire un peu du raid de façon décontractée. Parce que prends pas la tête, tu vas en raid et même si c'est simplifié. Il y a quand même du challenge et de la difficulté sur les stratégies que on retrouve pas en LFR.
Moi, je suis pas personnellement PVE, mais concrètement, je trouve quand même, enfin, hormis le côté avantage du fait de pouvoir accéder à ce genre de raid, je trouve ça quand même un peu, comment dire, bête de faciliter encore une fois un contenu qui, au fil des années, n'a fait qu'être facilité. Quelque part, enfin, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui pratiquent le PVE qui se plaignent en parlant comme ça, qui disent ouais, mais il n'y a plus de défis. Et quelque part, c'est vrai. Bon, après, ils ont mis le côté HM, le côté héroïque et toutes sortes de défis qu'ils ont mis en place. Mais je trouve quand même que, contrairement aux extensions passées, la difficulté PVE dans World of Warcraft a nettement baissé. Il n'y a pas, quelque part, il n'y a pas de mérite. C'est pour ça. Je saute, que je préfère un peu plus le PVP au PVE. Parce que voilà, PVP c'est pas pareil, il y a toujours de la rivalité, la concurrence. Et je trouve que le PVE dans World of Warcraft a nettement diminué, c'est mon avis, a nettement diminué en difficulté pour pouvoir justement, et uniquement pour ça je pense, faire en sorte à ce que tout le monde puisse accéder au contenu. Voilà.
Mais pourquoi ce serait un mal, je veux dire? C'est l'époque où on était à Naxxramas 40, il y avait 5% de la population qui avait clean le raid. C'était un peu... Enfin, d'accord, il y avait le côté « Oh, on est des élites », mais à côté de ça, bah, tout le monde passait à côté du contenu. Là, tout le monde a une chance d'expérimenter le contenu dans la difficulté qu'ils veulent. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, je suis d'accord pour dire que le LFR, c'est vraiment un peu bête et méchant. On y va, on clean et c'est fini. Mais raid flexible, moi, je trouve ça très bien.
Moi, j'ai envie de dire que je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit, Akiro, parce que je trouve ça sympa que Blizzard a su séparer les divers modes de difficulté. Si on recherche la difficulté vraiment du PvE hardcore, comme tu le signales, comme dans d'autres extensions où c'était vraiment dur, il y a le mode hard mode qui est fait pour ça, et actuellement quand même il n'y a que très peu de guildes au monde qui ont réussi à tuer Garrosh HM pour ensuite revenir sur le raid modulable, pour avoir énormément expérimenté avec certains membres de ma guilde et des amis de d'autres guildes. Je peux affirmer que c'est vraiment un mode de jeu formidable qui permet de régler les soucis de roster. Même si, à mon sens, il y a un léger déséquilibre. Par exemple, il est beaucoup plus difficile de tuer un boss quand on est 11 par rapport à si on est 12. Tout simplement parce qu'il y a une histoire de ratio qui est légèrement déséquilibrée et que Blizzard est en train de revoir.
Moi, j'ai un avis en tant que GM d'une guilde plutôt PVP. J'ai trouvé ça intéressant en sens où, comme disait Kero Bero, donc là c'est plutôt positif. C'est vrai que ça amoindrit complètement mon travail pour les membres qui veulent faire du PVE. Donc je laisse aller en LFR ou en flexible, et je m'en occupe pas. Et pour le coup, merci Blizzard.
Partisan du moins de LFR, mais c'est
non, mais comme moi, toujours, je suis un gobelin.
En ce qui me concerne, ça nous a permis, nous, pour les mois, d'aller en dynamique, enfin en raid quand même, malgré qu'on soit pas à PVE, et on a pu tomber quelques bases. Bon, on n'a pas continué parce que ça s'est pas fait, mais ça nous a permis de découvrir un raid et de la mise à jour en cours, et je trouve que c'est assez cool quand même que malgré qu'on soit pas qu'on fasse pas du PVE et qu'on n'ait pas un rooster fixe, et qu'on ait des gens qui puissent pas venir à chaque fois, et donc de pas avoir à gérer le nombre de personnes vraiment. Bah, c'est une ouverture qui est très appréciable et bien plus sympathique que le LFR où tu vas avec des étrangers et ça se passe une fois, non, 9 fois sur 10 mal, parce que les gens sont tout de suite là en train de chialer ou de faire n'importe quoi. Donc non, moi je trouve que c'est plutôt un bon apport au niveau purement plaisir de jeu.
Pour te suivre ton avis, K, moi je suis assez d'accord avec toi, surtout que dans les mémoires on n'est pas très très bon en PVE. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal pour notamment pour faire des raids à 12-13 personnes, c'est pas mal. Et puis en plus, par rapport à ce que tu disais, Kiro Bero, bah, pour nous on a quand même on a éprouvé de la difficulté pour tomber certains boss, quoi. C'est pas si évident que ça pour certaines guilds, quoi. Donc voilà.
En même temps, on a deux mains gauches tous. Okay.
Ouais, c'est aussi pour ça.
Ben moi, on a un petit retour un petit peu négatif par rapport au flex, pour la simple et bonne raison que, ben, par rapport à la difficulté, puisqu'on a essayé d'entamer le normal, et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que ça nous fait apprendre pas mal de mauvais réflexes par rapport au normal. Ben, on se fait quand même pas mal posséder par rapport à ça, et au final, on doit tout recommencer, tout réapprendre. Et je trouve que c'est un petit peu bête de devoir... Enfin, c'est pas une perte de temps, au contraire, c'est super sympa, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de la part de Blizzard. Mais ça apporte quand même un côté négatif du fait que... Ben, c'est que au niveau du... En passant du flex au normal, on se retrouve de suite à devoir tout refaire, tout réapprendre. Parce que, ben, tiens, il n'y avait pas tel buff qui s'appliquait à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas ça qui faisait autant de dégâts, parce qu'il y avait, au final, il faisait deux fois cette attaque en normal, en flex, il le fait pas. Et je trouve ça un petit peu décevant dans le sens que, ben, au final, ça dégoûte pas mal de joueurs et on se limite plus qu'à faire du normal alors qu'on a quand même besoin de faire du flex, quoi.
Un des autres points noirs aussi du raid flexible, c'est que, pour ma part, l'impression que j'en ai, c'est que c'est un palier qui est presque désormais obligatoire si on veut aller en normal. Parce que, bon, le stuff tot, il est beau, quoi, mais on doute quand même du 540, quoi, dans le flexible. Ça permet d'être très rapidement à jour.
Tout à fait, sachant que c'est du 540 améliorable, donc qui peut devenir du 548.
Bon. Pour ma part, je trouve que le raid flexible, ça peut être une qualité pour découvrir le contenu du jeu. Mieux qu'en LFR, puisque en LFR, en général, on entre soit ça livre direct parce que les gens ont aucune patience, soit tu te fais rusher et du coup tu découvres rien, en fait.
Ou tu roules ta tête sur le clavier.
Oui, c'est ça, où on roule la tête sur le clavier.
Comme en arène.
Et puis on se rend pas compte de tout ce qu'il y a avant, de tout ce qu'il y a, et au final on profite pas réellement du raid. On fait juste que suivre 24 autres Gugus qui courent devant.
Tout à fait, surtout que là, c'est. Alors, désolé de te couper, parce que. Surtout, c'est que la différence entre le LFR et le dynamique, c'est que le dynamique, vous y partez avec des gens que vous connaissez. C'est comme le système qui a été remis en place des scénarios héroïques qui oblige à chercher des personnes sur son serveur ou des personnes qu'on connaît, ce qui donne une meilleure ambiance et renoue avec le Vanilla, BC et même, je crois, le The Lich King, où justement il n'y avait pas cette. Comment dire. Ce qu'il y a dans le LFR et maintenant la recherche de groupe. On clique. On rentre, on sort, et si il y a eu un seul salut sur le canal, c'est que vraiment c'était une bonne journée. Voilà, c'était du jeu solo à plusieurs. Que le raid dynamique, même si ça n'a pas le niveau du raid normal, apporte cette chaleur entre guillemets pour les guildes qui n'ont pas de prétention PVE exceptionnelle.
Après, oui, je rajouterai juste un truc, c'est aussi un autre effet un peu négatif de qui était à la fois pour le FR et qui est aussi vrai pour le dynamique, du coup, c'est que ça donne moins de cachet, mine de rien, aux autres modes de difficulté, donc normal et HM. Bon, certes, il y a la difficulté de l'honneur, entre guillemets, d'avoir battu tel ou tel boss dans ce mode de difficulté, mais. Disons qu'on peut ressentir un peu moins le côté important, entre guillemets, de tomber un boss dans une difficulté supérieure quand on a déjà tombé dans une difficulté plus basse. Je me rappellerai par exemple la première fois où j'ai tombé le Roi Lich, c'était un très bon souvenir, alors que pour le Eldemort, j'ai pas eu ce souvenir, alors que le fait de l'avoir tombé en LFR avant... Et donc là, je pense qu'il y a aussi cet effet-là avec le raid dynamique.
Par rapport au raid flexible, donc, ce serait l'occasion pour les guildes RP de dire qu'elles ont participé au raid d'Orgrimmar, par exemple.
C'est une idée que j'avais mise sur le forum un moment, mais vu qu'il y avait beaucoup de réticences, on verra comment ça se passera.
Moi, si je fais des raids avec Arcanum Sanctus, ça me dérangerait pas du tout, même je risque de le faire, suggérer la présence de la guilde lors du raid. Bon, pas tous les boss, hein, on irait pas jusqu'à Garrosh, c'est évident, mais... Certains boss.
Participer à la chute.
Tout à fait.
Disons, je crois qu'on a tous eu les mêmes idées, quoi, mais bon, c'est.
D'être une
pour moi,
de...
ça reste quand même abusé, quoi, qu'on dise, voilà, quoi, qu'on ait avancé finalement. Mais bon, l'idée est quand même appréciable, en effet.
L'idée est appréciable, c'est sûr, c'est. Après, il faut éviter de s'approprier la victoire en disant que telle guilde a tombé ce boss-là. Non, c'était telle guilde a participé comme une goutte d'eau dans l'océan de l'armée qui a tombé ce boss.
Tout à fait.
Là, bien. C'est aux joueurs RP donc, chacun de savoir se placer.
C'est surtout ça.
Tout à fait. Donc, comme vous avez vu, le sujet est assez épineux parce que les idées sont, les avis sont partagés sur l'impact du raid dynamique. Mais nous avons pu voir que cela aura un intérêt en RP, ça peut être toujours utilisé de bonne manière. Mais revenons sur une parole qui a été dite, je crois que c'était par Kerobero ou Zulceus, concernant la différence entre le raid dynamique, enfin entre le PvE et le PvP, c'est que le PvP, enfin la différence entre le PvE et le PvP, c'est que le PvE, c'est le joueur contre l'environnement, c'est-à-dire que la difficulté dépend du jeu, dépend du développeur. Tandis que le PvP dépend du joueur en face. Donc, ça ne revient qu'au joueur de décider de la difficulté, en somme, et de régler cette difficulté. Donc,
je pense pas que ce soit une question forcément de difficulté, mais plus une question d'adaptation, en fait.
Ou de râler sur les forums pour demander à Wine.
Tout à fait. Parce que je ne pense pas que Garrosh ira rager sur forum parce qu'il s'est fait poutrer très rapidement par les premières guildes dans le monde.
Ou simplement parce qu'il n'arrête pas de le nerfer en mode LFR.
Et surtout que son chef de guild ne lui a pas débloqué les réparations. Donc, nous allons attaquer donc le PvP. C'était pour ça que cette petite transition immonde était là. Donc le PvP, avec l'île Lutant Figé, cette nouvelle zone qui est arrivée, une nouvelle sorte de PvP est arrivée. Et c'est toujours du joueur contre joueur, mais ce n'est plus forcément du faction contre faction. On peut se battre contre les membres de sa propre faction grâce à un objet très facilement achetable qui s'appelle l'encensoir d'Ordos. Grâce à ça, vous pouvez aller enfin pouvoir vous venger de vos alliés de la Horde sans avoir à remonter un perso du côté de l'Alliance ou à payer une somme exorbitante en mettant sa tête à prix. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ce PvP apporte au jeu et qu'est-ce que cela peut apporter en RP? Parce que on peut enfin tuer d'autres joueurs, on peut enfin être un vrai méchant ou une vraie ordure avec les membres de sa faction.
Enfin, si je peux intervenir, je trouve que c'est pas forcément être une ordure ou pas de tuer quelqu'un de sa faction, ça rajoute une touche de réalité au jeu. Et je trouve que pouvoir attaquer les membres de sa faction est intéressant, ça ajoute un nouveau aspect que j'aime beaucoup et j'espère qu'on pourra continuer.
Je suis tout à fait d'accord, mais faudrait réussir moi à me justifier le joueur qui servira à Ordos, hein, un pseudo dieu du feu. Mais bon, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est assez sympa d'être libre et de pouvoir attaquer quiconque sur son passage. Ça permet d'engendrer des fights assez intéressants, massifs, où finalement c'est la mêlée alliance contre horde, contre des joueurs d'Ordos, quoi.
Pour ma part, je trouve que c'est une assez bonne idée. J'ai aussi remarqué que lorsqu'on utilise cet encensoir, on devient donc membre de la faction d'Ordos, et qu'on ne peut plus attaquer ceux qui ont aussi utilisé cet encensoir, même s'ils étaient à la base à la faction opposée. J'ai plus l'impression que ça ressemble un peu comme une espèce de prototype d'un mode de combat trifaction. Et je pense que ça peut être assez sympa à lancer. De plus, on peut essayer de remanier entre guillemets ça en roleplay. Par exemple, tout simplement, même s'il a des buffs sur la tête, il est tout rouge. Pas considérer que c'est un membre de la faction d'Ordos, mais un membre normal qui se bat vraiment contre la personne en face en roleplay. Et où cette fois-ci, il n'y a pas de barrière de la langue, comme on peut voir avec l'interfaction.
Je rejoins l'avis de beaucoup de gens. J'aime beaucoup cette zone et puis c'est assez fun de pouvoir taper enfin sur les gens de sa propre faction. Alors après, il y a toujours des petits rageux qui m'ont mis Wisp lorsqu'on les aura tués pour dire « Ah, c'est pas gentil, c'est pas beau, c'est pas bien. » Mais bon, ça, on s'en fout. Je pense que moi, c'est un test surtout pour dans les futures extensions, à de nouvelles zones, et peut-être une troisième faction, ou un truc comme ça, quoi.
Moi, personnellement, je vois pas trop non plus la manière dont on peut exploiter sans RP. Maintenant, ce que j'aime beaucoup avec l'encensoir, c'est qu'en fait, on retrouve vraiment tous les côtés du sauvage, et ça s'applique plus généralement à toute l'île. Parce que, grâce à l'encensoir, comme on peut attaquer les joueurs d'autres factions, mais il y a aussi les soucis qui s'appellent l'encensoir. On peut plus aller dans la zone avec les astres, donc faut faire gaffe à ce qu'on fait déjà vu en PVP à cause de ça. Et lorsqu'on utilise l'encensoir, on se retrouve à 10% PV. Et c'est là qu'on s'ouvre à toutes sortes de possibilités. Il y a des joueurs qui, par exemple, tourneront dans les zones en fufu pour tuer des mecs qui passent en ordre direct et pour se faire un frag, donc. Mais on a aussi, par exemple, toutes les manières sales de jouer au PVP. Hein, donc ceux qui vont attendre qu'ils sont pas là, il faut les achever en utilisant leur fufu. Il y a moyen d'utiliser les mobs, leurs AOE et ainsi de suite pour tuer les gens. Et du coup, bon, le PVP est une source de drama, c'est ça qui est dommage, mais franchement, je trouve qu'il y a moyen de bien s'amuser. Bien sûr, par contre, il faut être prêt à se prendre des rage wisp, parce que si vous tuez un mec sous ordre, déjà, vous êtes sûr d'en prendre un.
Ou alors, il faut bien choisir sa cible, et puis, ce que je recommande aussi, en général, c'est de quand même faire attention aux debuffs qu'il y a sur la gueule, genre... éviter de tuer 10 fois de suite la même cible dans le même intervalle de 30 secondes. Ce qui m'est déjà arrivé.
Ce qui n'est techniquement pas possible en 30 secondes parce que c'est le temps de repop au cimetière. Mais c'était une remarque comme ça. Mais l'image est là.
C'est pas forcément. Hein.
Alors, une chose qu'on pourrait remarquer et qu'on peut signaler, c'est qu'en fait, ce système où on pouvait taper tout le monde existait avant. C'était ce qu'on appelait les arènes, avec l'arène Gourbashi et l'arène Anagrande. Et je crois qu'il y avait encore une autre zone. Alors, c'est sûr, maintenant c'est une gigantesque arène où on peut choisir d'attaquer les membres de sa faction et où il y a justement un terrain où on peut se cacher, où on peut utiliser le décor. Donc c'est une arène à grande échelle, si on peut dire.
Je relève un peu les Rage Wisp. Ça c'est un terme qui me fait assez rire parce que à la base le Rage Whip c'est une chose que je prends même plus en compte puisqu'à la base on est sur un serveur PVP. Ce qui peut arriver au mec à l'île du temps figé peut lui arriver n'importe où. Voilà, je veux dire donc à partir de là, bon si t'aimes le drama tant mieux. Moi personnellement si je peux éviter j'évite puisque c'est souvent source à emmerde. Mais non. Après pour le côté RP, je vois pas non plus moi comment justifier ça en RP.
Je suis tout à fait d'accord avec Kérobéro et j'en profite pour passer une annonce. Si comme moi vous êtes GM et que vous vous faites tuer par vos propres membres, inscrivez-vous dans mon syndicat, c'est le syndicat du SCA. Voilà, contactez-moi.
Et moi aussi j'ai une annonce à faire, c'est un petit conseil pour toutes les classes qui peuvent bug. Montez tout en haut, donc après le... premier pont, il me semble, il y a des gens des fois qui vont faire les rares. Vous claquez votre bijou et là vous attendez que la personne s'approche un petit peu trop du bord et bam. Et c'est très 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 marrant. Après, faut pas avoir peur de se faire détester, mais bon, ça.
Bah, t'es hors d'eux en même temps, je veux dire.
Voilà.
Bon, quand même, il y a un défaut avec le système d'encensoir, c'est que quand la récompense qu'on gagne, la pièce sanglante, elle est seulement attribuée au dernier coup, attribuée à la cible. Donc un healer est clairement défavorisé à ce niveau-là. C'est vraiment le gros point noir à mon sens de ce système.
Pas plus sain là pour le healer. Je suis healer et c'est vrai que je suis un peu... Je peux jamais avoir de pièces.
Je pense que les healers méritent de se faire brûler, personnellement en PvP, mais c'est un avis personnel.
Et sinon, pour information, je peux créer le syndicat des GM qui tuent leurs membres.
Hein, si je m'inscris dessus, celui-là.
C'est toujours plus marrant, et puis ils ne peuvent pas répondre.
J'ai toujours pas assez de skills pour pouvoir le faire.
Ah,
donc, je vais rester dans mon syndicat des victimes, des GM victimes.
On fera un groupe de GM et on ira tous les tuer.
Moi j'adhère au syndicat victimes des GM.
Victime DGM ou
GM victime, les deux.
Ok.
Sinon, on peut créer le syndicat DGM qui n'ont aucun membre dans leur guide au final.
Ça c'est méchant.
Quelle cruauté.
Ils ont parlé des avantages de la 5.4 que ça avait apporté. Mais nous n'avons pas parlé du RP qui a été apporté avec cette 5.4. Et tant qu'à parler du RP de la 5.4, autant parler également de notre second sujet débat, bien qu'il y ait eu quelques frictions sur le sujet précédent, du RP actif et passif. Alors déjà, vous devez vous demander, qu'est-ce que le RP actif, qu'est-ce que le RP passif? Alors, je vais vous répondre simplement. Pour faire une comparaison simple, qui vous parlera peut-être immédiatement, on va dire que le RP actif est le RP d'acteur, où on va œuvrer avec l'ensemble de la communauté, et où on va créer des choses, on va être actif, tout simplement. Le RP passif va être plus spectateur, on va participer au RP du serveur, de la communauté, le RP de la guilde, mais on va avoir plus une attitude de spectateur, tout simplement. On va venir, on va participer, on va jouer, mais on ne va pas créer vraiment quelque chose, on ne va pas lancer une activité, on ne va pas lancer une idée, on va juste participer, on va juste être spectateur. Voilà. Donc c'est pour résumer grossièrement.
Mais enfin, je comprends pas cette notion de passif et d'actif. Grosso modo, t'as des créateurs des 20 RP et puis tu as des participants concrètement.
Voilà, c'est ça.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'es... Ah, deux secondes.
Vous pouvez préciser, il y a aussi le roleplay passif dans le cadre où on fait que sans pour autant aller dans la participation avec la communauté ou tout simplement avoir un roleplay passif lié au jeu lui-même en se laissant tout simplement aller aux différentes options qui sont enfin différentes à tout ce qui est offert par le lore directement au personnage genre lorsqu'on fait un des scénarios ou lorsqu'on fait aussi les quêtes
ouais mais
ça se rejoint au roleplay solo quoi.
Ouais mais c'est ça que je comprends pas, le roleplay solo je conçois pas faire du roleplay solo, puisque de base, normalement, quand, dans une communauté RP, bon, t'as des guildes, t'as un paysage déjà installé. Que tu sois là depuis un moment ou quand tu arrives, tu dois forcément t'y adapter. La seule notion d'être passif que tu peux avoir, c'est te dire simplement je participe pas. Parce que normalement, tu arrives dans un event, tu sais que c'est. Bon, souvent c'est le cas, t'arrives comme un pédronard dans un event, et la première chose que tu fais, c'est tu dis bonjour. Voilà. Alors, t'es passif à partir du moment où t'arraches plus un mot après ce bonjour, concrètement. Mais normalement, vu que t'es rôliste, tu dois participer, ton personnage a un background, ta guild a un background, t'as une histoire. J'ai pas de notion d'être actif ou passif, tu participes tout simplement. T'arrives, t'as un event, tu le suis ou tu le suis pas. Tu peux pas dire à des gens qui n'étaient pas prévus, par exemple, « Ah non, viens pas, on est en event. » Tu peux laisser des gens simplement venir voir. T'interagis avec eux avec ce qu'ils te donnent, puisque généralement t'interviens avec ce qu'ils te donnent. Si le mec tu lui dis bonjour, il te dit bonjour et puis ça va pas plus loin, bon t'as pas besoin de lui tenir la jambe. Je
crois que en fait le statut de actif et passif est situé plus dans la création pure et pas dans la participation. Je crois que c'était là où Erzen voulait en venir au début, c'est que il va y avoir des joueurs qui vont être plus à même de créer et de proposer des events à sa guilde, à sa communauté, à 3 personnes ou à 10 personnes. Et il va y avoir des gens qui prendront plus plaisir à participer à ces events et non à les créer. Donc en gros, il y a les joueurs qui aiment organiser et créer des events et ceux qui aiment participer. Je crois que c'était là, c'était ça que tu voulais dire là, non, au début.
Tout à fait. C'est que il y a une différence entre les deux, mais les deux ne peuvent pas vivre sans. L'un ne peut pas vivre sans l'autre et inversement.
Tout à fait.
C'est les deux sont liés. Il faut les deux. C'est il y en a des gens qui seront actifs, d'autres qui seront passifs. C'est comme pour tout. C'est un état d'esprit.
Et puis même après dans le quotidien, j'ai envie de dire, il y a des gens qui vont être pendant une certaine période plus plus actif et puis par lassitude ou par parce que voilà ils ont envie de plus participer aux événements des autres vont avoir une période d'inactivité aussi à mon avis voilà.
Donc dans ce cas c'est pas du passif, c'est du RP réactif je dirais plutôt, puisque quand tu dis que quelqu'un est passif bon mec il est là il attend quoi, ça se
passif
passe,
dans
quoi.
La c'est création comme... toi il attend voilà. Que quelqu'un crée pour lui
voilà exactement, il attend bouche ouverte que ça tombe.
Pour reprendre ce que dit Luigi là sur sur ceux qui vont faire du RP tout seul en suivant la trame du jeu à travers les quêtes etc, pour moi c'est pas des gens qui existent tellement en RP, parce que de base, pour moi, le RP, il va y avoir un échange avec les autres. Donc si simplement pour jouer, lire ses quêtes et c'est tout, je vois pas trop l'intérêt, quoi.
Je voulais dire, à propos donc de cette histoire RP actif-passif, de toutes les façons, y a certaines personnes qui organisent des events, et puis après, les gens, les membres peuvent proposer, c'est normal, et il faut même. Mais s'il y a des propositions de partout, et que après, chaque personne essaie de caser quelque chose... Il faut un centre décisionnaire, ce sont les officiers et le GM qui vont valider et créer à côté les membres. S'ils veulent proposer, ils proposent. Sinon, la plupart du temps, ils sont passifs, comme vous dites, mais c'est pas une finalité.
Et moi, j'aimerais insister sur le fait que ça fait tellement bien aussi d'avoir du RP sauvage qui n'est pas préparé, qui n'a pas de trame écrite, et simplement du RP qui se provoque entre des gens qui se croisent dans la rue, sur le jeu, etc. Et c'est pour moi le RP finalement le plus intéressant.
Ah ben là je plussois ce que dit Nazgal effectivement. Il fut un temps sur le culte côté Alliance et Horde aussi je pense où les meilleures histoires et les meilleures ébauches RP qu'il y a eu se sont basées uniquement sur le sauvage et sur les interactions. C'était magique même j'ai envie de dire. Donc
j'ai connu cette époque avec Kero Bero parce qu'on avait joué longtemps ensemble à cette époque. Et effectivement oui c'était le meilleur pour moi de mes expériences en RP sur WoW. Et je trouve qu'actuellement si j'ai une critique à faire à la communauté RP actuelle, c'est qu'on essaye de trop cloisonner le RP. On met des cadres, on met des structures, en WISP, on prépare les répliques, il n'y a plus vraiment de choses qui se passent comme ça sans se préparer. Et ça je trouve ça très dommage.
Je suis pas d'accord du tout.
Moi non plus
tout, moi. Parce que j'ai envie de dire que
c'est comme ça que je vis en tout cas.
À mine d'argent, là en ce moment, il y a des rencontres qui sont dans la rue, c'est totalement ouvert et on m'a jamais wisp pour qu'on prépare des répliques ou des trucs comme ça.
Non, c'est pas ce que je
Ouais, mais là actuellement,
c'est limite improbable,
la...
tu vois.
Ouais, mais actuellement dans la Horde, c'est bien parce que vous avez un peu plus, ça bouge un peu plus. Mais c'est vrai que nous actuellement côté Alliance, c'est pas la même chose.
Mais c'est normal, il y a personne à Haut-le-Vent en ce moment.
Bah oui, parce que après chacun a ses raisons.
Arcane sont tous à Hurlevent, c'est. Non. C'est désolé.
Non, c'est pas ça. C'est que chaque guilde aussi a leur propre RP à faire. C'est normal. Mais c'est vrai qu'après, actuellement, il n'y a plus vraiment d'attractivité à Hurlevent. Même, puisque quelque part, Hurlevent, côté Alliance, je parle, c'est un petit peu la vitrine. Comme quand tu vas sur le Kirin Tor avec un revol, la première chose que tu fais, tu vas sur la place cathédrale. Pour voir s'il y a du monde. Hurlevent, c'est pareil. Et actuellement, Hurlevent est vide. C'est vrai, je le consens. Maintenant, on peut pas jeter la pierre sur les guildes, parce que quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'elles ont leur propre event. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui passe par hasard, juste pour jauger l'état actuel du RP sur le serveur, c'est tout simplement catastrophique, quoi.
Moi je propose qu'on retourne sur le sujet de base, hein. Là on s'écarte,
oui, on
là,
dévie un peu, on
là,
était sur le RP actif passif.
Donc je vais donner mon avis à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai toujours donné la possibilité à mes membres d'optimiser leur choix, parce que pour moi, le RP, même lors d'un event ou dans un RP sauvage ou comme vous voulez, c'est quelque chose qu'on vit, c'est pas un truc qu'on regarde comme si on était dans un film ou à la télé. J'ai du mal à concevoir, c'est vrai que le terme de passif n'a pas à avoir lieu finalement.
Voilà. Comme vous avez pu le constater, l'impact qu'ont chacun de ces RP est assez important. Surtout, l'avis diverge quant aux définitions à apporter à ces différents... style de RP, hein, c'est... non, on va dire style de RP, on va dire attitude du RP. Parce que style de RP sera plutôt méchant, gentil, neutre, enfoiré, bienveillant, etc. etc. Donc voilà, donc passons donc à notre dernier sujet, qui je pense va animer les foules, va allumer le cœur de nos participants, l'utilisation de la magie dans la cuisine. Depuis de nombreuses années, les mages ont tenté de reproduire la nourriture avec une qualité parfaite. Et ce, sans l'effort de la préparation. Donc, la question qui se pose, c'est quel est l'impact de cette utilisation de magie dans la cuisine, dans la création et dans la vie de tous les jours pour se nourrir.
Pourquoi les mages forcément? Nous, chez les trolls, on fait du mojo de cuisine et c'est très réussi. D'ailleurs, l'intendant des Selway m'a déjà acheté.
Il t'a acheté toi pour faire sa cuisine?
Ton mojo et non, en fait.
Non, dis-le pas.
Non.
Moi, je voulais dire que je pense que la magie est cruciale dans la cuisine de Azeroth, et inversement d'ailleurs, puisque les mages font leur apprentissage en invoquant de la nourriture, puisque c'est un sort qui n'est pas si aisé que ça, de faire des petits gâteaux avec des pépites de chocolat. Et de plus, ces expériences ont permis de créer de nouveaux sorts. Par exemple, le sort d'invocation d'élémentaire d'eau a été créé par un mage qui a invoqué de l'eau sans récipient. Donc je pense que c'est très important.
Non, mais de toute façon, rien ne vaut mieux qu'un bon gâteau au chocolat ou un fondant au chocolat créé de nos propres mains pour déguster la saveur et avoir du mérite que cette stupide magie, j'ai envie de dire.
Nous, du point de vue de la Nazgul SARL, le point de vue est très capitaliste en disant que la magie réduit les coûts de fabrication et donc que c'est quelque chose de très intéressant à utiliser à outrance pour mieux gagner de l'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent.
Moi, je comprends pas vos pertes de temps. Hein. Quand je tue quelqu'un, je prends son cadavre, je mets du mojo, je le bouffe, puis c'est tout. Hein. Je sais pas pourquoi vous cuisinez.
C'est un peu archaïque quand même comme truc. Mais c'est vrai que la magie dans le repas, bah, ça nous a permis de tenir plus longtemps en tout cas lorsque le soleil a été en mauvais état.
Moi j'ai une grande question. J'ai une grande question et j'espère ne pas tuer un mythe. Erzan, tes gâteaux, ils sont faits avec de la magie ou pas? Parce qu'ils sont vraiment excellents.
Ce n'est pas de la magie.
C'est
les
pas de la
ingrédients
magie avec
sont
lui, mais...
particuliers.
Tes petites mains.
Mes petites mains magiques. Font de ces cookies une merveille appréciable et appréciée.
Oui, bah la prochaine fois, arrête de mettre de la terre dedans.
Non, ça c'est la tarte à la rhubarbe qui a de la terre.
On va t'en commander à peu près 1000 à la Nazgul de tes cookies, on aime beaucoup ça.
Facile.
Voilà, donc dis ton prix.
Alors là, je sais pas, parce que c'est surtout le charbon sanglant que je mets dedans qui coûte cher.
Y'a pas de produits dérivés pour l'Alliance qu'on puisse goûter?
Ah bah si, je serais ravi de... En plus, je crois que j'ai promis à un nain de lui envoyer... d'envoyer ça par... par l'intermédiaire de négociants...
T'as déjà la cuisine de Rera, ça doit te suffire, non?
Ah oui, faudra que je fasse commercialiser ça, la cuisine exotique de Rera.
La un gâteau au chocolat, la moutarde.
Me fait rire, Zan, tu commences à... Avec tes cookies, tu commences à devenir Cameron et ses chemises.
Oui, mais Cameron, ça pourrait être pas mal.
Ouais. Ou non,
comme vous pouvez l'entendre.
Ouais, t'as vu, c'était beau.
Ouais,
comme vous pouvez l'entendre, je n'utilise pas de magie pour mes biscuits et ils sont très demandés. Donc, la magie permet de produire beaucoup, de produire en quantité de manière à augmenter le rendement et la vente et pouvoir permettre à tout le monde d'en avoir. Mais il y a la perte du goût, la perte de l'authenticité, la perte du savoir-faire et de la petite main qui aura pétri la pâte ou qui aura découpé le steak pour le préparer et en faire un plat succulent à déguster.
Une bonne alternative à tout ça, j'ai envie de dire que c'est de préparer votre plat, par exemple une belle quenouille, et de la saupoudrer d'un peu de magie, d'un peu de graines de mana comme ça dessus, et c'est excellent.
Mais juste une question, le murloc d'élevage, quand on parlait de l'épisode précédent, il est aussi magique ou pas?
Ça dépend des races.
Bah moi je dirais surtout que ça dépend si c'est un Ginyu ou pas. Si c'est un Ginyu je pense parce qu'il est un peu muté et tout, mais il y a un Murloc de base, pas grave.
Ah pourtant il y a des Murlocs chamans tout ça, et le nombre de fois que j'ai reçu un coup électrique de la part d'un truc, d'un Murloc avec cette espèce de boule là qui tourne autour, ouch.
Alors à savoir, le Murloc peut aussi produire des champs électriques grâce à un système simple car il a un léger lien de parenté avec les anguilles qui peuvent eux aussi produire de l'électricité. C'est juste un dysfonctionnement du système de l'animal qui lui permet de produire cette petite quantité d'énergie qui lui coûte beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas le sujet, nous ne parlons pas biologie mais nous parlons nourriture.
Pour le bouclier de foudre, c'est parce qu'il faut le manger mort, pas vivant.
Tout à fait. C'est un peu le système de réflexe.
Oui, mais disons que j'essaie de le tuer avant de le manger.
Bah, t'essaies de le tuer avec les dents?
Bah non, avec mon épée, mais ça coûte de l'électricité, qu'est-ce que je te dise?
Bah, tu prends un bâton.
En même temps, si t'es idiot, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Pose une question. Les mages créent des petits pains, invoquent des plateaux avec de la nourriture, etc. Mais d'où est-ce que ça vient?
Moi je pense que ça vient de l'orphelinat en fait. On est en train de nourrir les enfants qui. On les fait travailler et tout, ils produisent de la bouffe et puis les mages les téléportent.
Moi je pense qu'il existe un plan, tout comme d'autres plans existent, qui contient une infinité de nourriture disponible et que les mages peuvent invoquer à partir de ce plan. Donc en fait,
ça.
Il existe une dimension avec plein de desserts et plein de d'eau et plein de. Voilà.
Ça, c'est totalement faux. J'en ai fait les frais récemment. Je peux vous garantir que l'origine de la bouffe, c'est pas du tout ça. Ils les invoquent tout simplement de la part de l'assiette d'autres consommateurs. La dernière fois que je m'étais préparé un joli gâteau, il a disparu sous mes yeux.
Non,
ça, bon, vous expliquez ça, ça autrement?
Moi, je pense plutôt que c'est une invocation d'éléments, en fait, et d'assemblage, je pense, dans l'incantation, si on veut partir dans le... Dans le vif. Je pense pas que t'as un plan avec, je sais pas moi, 150 000 tonnes de gâteaux de man, puisque déjà, je te dis pas la date de péremption, hein, puisque ça reste de la nourriture. Je pense que ça vient de là. Mais je pense plutôt que c'est une incantation qui réunit les éléments nécessaires, qui les invoque, et qui en donne la forme ensuite. Sans doute, peut-être. Enfin, moi, ça me paraît plus plausible que de voir des mecs dans un autre plan en train de cuisiner pour l'éternité, quoi.
Non, mais moi je vais t'expliquer, Kiro, en vérité, tout avait été prévu, les titans ont créé les pandarènes dans un autre plan, et du coup ils travaillent 24 heures sur 24.
Ouais, t'as plus compris, on verra la sushi, le riz, tout ça, ouais, pas de problème.
Je pense que ce sera le thème de la prochaine extension.
L'invention des pandas, qui... bah, c'est déjà le cas, non?
Non, le... c'est comme le rêve d'Emeraude, mais avec des gâteaux.
L'invasion des petits pains tueurs.
Oh
ouais,
là
un beau
là.
Titre d'extension.
Ah ben alors là, on va perdre beaucoup de pandarènes qui vont être complètement... Comment dire... Overdosés.
Bah ils sont pas déjà bourrés.
Ça va pas les arranger.
Je vois déjà les débats, quoi. Est-ce que les pépites de couleur seront l'avenir du donut? Ska, tu as la parole.
Très bonne question. On pourrait développer ça dans un autre truc que là, je suis pas prêt à l'âge, quoi.
Ah, je pense qu'il faut un peu plus de préparation.
Ouais, non, nous parce allons que quand même, faire... les pépites de couleur, c'est un sujet de fou.
Nous avons pu voir que la magie dans la cuisine, c'est un sujet très controversé, et tant que nous n'aurons pas exploré toutes ses possibilités, toutes ses limites, nous n'aurons pas surtout... vu les dégâts qu'elle occasionne sur les systèmes immunitaires de nos pauvres créatures.
Hein? Quoi?
Notre pauvre corps. Ou est-ce que... Ne croyez pas que les gobelins étaient comme ça de base.
Regarde le beat des pandarènes, déjà tu sais qu'il y a un problème.
Voilà. Donc, nous allons passer à la rubrique de Kalyan, tout simplement. Donc Kalyan, de quoi allez-nous vous parler cette fois?
Dans ma rubrique trucs et astuces, cette fois-ci je vais vous parler des portails et des réglementations mises en vigueur par le Kirin Tor afin de réguler la pratique. Donc, pourquoi est-ce que les portails n'ont pas remplacé les moyens de transport traditionnels comme les bateaux, les zeppelins ou les maîtres de vol, c'est parce qu'ils sont très chers d'entretien. Le Kyanitor doit entretenir toutes les lignes tellurique qu'empruntent les utilisateurs de portail, ainsi que les mages. Et donc, ce coût est répercuté sur les mages par les runes, donc les composants des runes de portail. Ils invitent les mages à répercuter ce coût sur les utilisateurs de portail. D'où le fait que pas mal de mages se font payer pour faire des portails. Il n'est pas nécessaire forcément d'avoir une rune de portail pour créer un portail, mais c'est une taxe obligatoire mise en place par Kyanitor. Donc il y a plusieurs règles qui régissent l'utilisation des portails. Règle numéro 1, il ne faut pas créer de portail vers une autre direction que celle prévue par le Kyanitor, qui sont donc les capitales et les sanctuaires, la plupart du temps. Par exemple, c'est interdit de créer un portail vers un lac de lave, ce serait potentiellement mortel, et donc cet acte est puni par la peine de mort tout simplement. Donc il existe des permis spéciaux qui autorisent un usage plus libre des portails. Ce sont les permis spéciaux D6, mais ils sont très rarement délivrés. Règle numéro 2. Il faut créer un portail à l'endroit approprié et l'utiliser de la façon appropriée. Donc il ne faut pas créer de portail sous les pieds de quelqu'un. Ne pas s'attarder à mi-chemin entre le départ et l'arrivée du portail. Le portail n'est pas une poubelle, ne pas jeter d'objets dedans. Ce n'est pas non plus un bouclier, ni un parapluie. Donc on n'a pas le droit de l'utiliser dans ce but. Voilà, imaginez la tête des mages de la tour des mages qui se reçoivent de la pluie ou une boule de feu. Bon, ça peut être mortel également, c'est pour ça que c'est interdit. Règle numéro 3. Il ne faut jamais forcer une personne à emprunter le portail ou à la tromper dans ce but. Déjà, c'est le meilleur moyen de perdre des clients pour les mages, mais c'est très dangereux, voire règle numéro 2. Règle numéro 4, ne pas laisser une personne métamorphosée entrer dans un portail. Attention, ça entraîne une explosion, tout simplement. Donc la personne va mourir, donc c'est interdit. Il n'y a pas eu de cas où ça n'a pas explosé, donc faites attention. Règle numéro 5, il ne faut pas retirer le filtre liquide du sort du portail. Donc il existe sur les portails un filtre liquide qui permet de lancer les portails sous l'eau. Mais le Kyanitor préconise de ne pas le retirer. Par contre, pour permettre de faire passer les élémentaires d'eau, on peut retirer le filtre. Mais attention, sous l'eau, c'est obligatoire. Règle numéro 6. Les dimensions standards d'un portail sont 3 mètres et 33 cm de haut sur 2 mètres et 92 cm de large. La création de portails plus grands requiert un permis, le permis spécial G16, généralement délivré aux mages ayant leur total de points sur leur permis de portail depuis 8 ans ou plus. C'était les principales règles d'utilisation des portails. Et j'aimerais ajouter aussi que le Kyanitor préconise d'utiliser les portails à des fins les plus efficaces possibles. Plus nombreux sont les personnes utilisant le même portail, moins les lignes telluriques en sont perturbées. Donc en ce moment, un programme d'éco-portail est à l'étude, qui diminuera les taxes des mages du Kyanitor qui créent des portails pour au moins 5 personnes. Si vous voulez en savoir plus sur ces règles, ou les consulter tout simplement, je vous invite à lire le livre « Réflexions sur les portails », un mémorandum sur l'utilisation correcte des portails, qui se trouve à Dalaran.